Vous écoutez, on lit pour vous.
Une autre façon de construire. Un texte de Jean-Benoît Nadeau, paru en avril 2024 dans l'Actualité. Les habitants de l'avenue Carmen Bienvenue, à Belœil, ont eu droit à un balai d'un genre plutôt inusité dans la semaine du lundi 13 novembre. L'érection d'un immeuble de 24 logements en 4 jours et demi. Chaque heure, un fardier apportait aux 7 ouvriers une très grosse boîte, un module, cuisine-salon, chambre-salle de bain ou corridor-boudoir. Une fois déballé de sa pellicule moulante, chaque module était hissé par une grue et déposé selon un ordre précis. Le vendredi midi, ils ont allumé le chauffage et fermé la porte, raconte Éric Bonneville, coprésident d'Industrie Bonneville à Belœil, qui travaille dans le préfabriqué depuis 1961. La construction modulaire, c'est la solution à la crise du logement. Le petit-fils du fondateur Paul-Émile Bonneville n'est pas le seul de cet avis. Dans les villes et les ministères, sur les chantiers et dans les bureaux des architectes, un virage majeur se dessine. Moderniser la construction afin de contrecarrer la double pénurie de logements et de main-d'œuvre en construction. On y croit. On essaie tout ce qui nous paraît porteur, dit Claude Foster, PDG de la Société d'habitation du Québec, SHQ. Cette agence, qui met en œuvre des programmes et des services à la population en matière d'habitation, a élargi son intervention et créé un programme d'appui au développement de l'industrie afin d'en accroître la productivité. En novembre, la SHQ a organisé un colloque qui réunissait plus de 600 industriels, chercheurs, promoteurs immobiliers et fonctionnaires pour les familiariser avec les dernières innovations. Il faut construire plus et plus vite. Combien plus? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le constat de la Société canadienne d'hypothèques et de logements, SCHL, est sans appel. D'ici 2030, le Québec aura besoin de 1,2 million de nouveaux logements de tout type, soit 170 000 par an. Or, au rythme actuel, 38 900 nouvelles portes en 2023, soit 19 000 de moins que l'année précédente, l'industrie québécoise de la construction aura en 2030 un déficit de 860 000 logements. Ce sombre constat masque néanmoins une bonne nouvelle. Les Québécois logent de plus en plus dans des condos, des jumelés, des multilogements en tout genre, qui se prêtent mieux à une construction industrialisée, dit Kevin Hughes, économiste en chef adjoint à la SCHL. Il y a 25 ans, la maison individuelle représentait 60 % du bâti neuf. Maintenant, c'est moins de 30 %. Les promoteurs et les gouvernements oublient souvent ceux qui se spécialisent dans la construction modulaire, négligeant même de les inviter à participer aux appels d'offres, estime Daniel Laprise, président fondateur de Maison Laprise, dont le siège se trouve à Montmagny. Mais on devient leur bouée de sauvetage, note-t-il. Celui qui s'était illustré en 2010, après le tremblement de terre d'Haïti, en y livrant en 8 mois 7 500 maisonnettes en kit, juge qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Au Québec, le modulaire préfabriqué représente environ 15 % du bâti, alors qu'en Scandinavie, c'est 80 %. Ils font même de la brique sur panneau en usine. J'ai vu ça il y a 30 ans, mais nous commençons tout juste à l'expérimenter. Préfabriqué, préassemblé, modulaire, construction hors site, quel que soit le terme, l'idée n'est pas nouvelle. En 1927, l'architecte suisse Le Corbusier parlait déjà de construire des maisons comme des Citroën. Et il n'était pas seul. Le père de la biosphère de Montréal, l'architecte américain Buckminster Fuller, avait même conçu une habitation préfabriquée, la Dimaxion, qui ressemblait au croisement entre une soucoupe volante et une roulotte à patates frites. Dans le Québec du premier quart du 20e siècle, une bonne part des maisons de style anglais étaient livrées en pièces détachées par wagon. Et en 1926, dans le quartier Arvida à Saguenay, les techniques les plus modernes permettaient de bâtir 2 maisons par jour. Or voilà, en dépit des promesses d'industrialisation, le secteur de la construction est demeuré notoirement improductif. Selon une étude menée par l'Institut Global McKinsey en 2017 et corroborée par de nombreux autres, le secteur manufacturier a doublé sa productivité depuis 1995, alors que les gains du secteur mondial de la construction traînent la patte à 21%. La chose s'explique aisément, selon Kevin Hughes de la SCHL. En un siècle, presque tous les secteurs industriels se sont consolidés, ce qui a assuré d'importants gains de productivité, un meilleur accès aux capitaux et l'embauche de personnel spécialisé. Mais en Amérique du Nord, la construction est demeurée très fragmentée. Les données 2022 de Statistique Canada le démontrent. La construction au Québec, c'est 65 000 entreprises pour 270 000 travailleurs, soit 4 personnes par entreprise en moyenne. À peu de choses près, le portrait est le même partout ailleurs sur le continent. Le secteur est dominé par des petits entrepreneurs généraux pour qui une maison par an représente une grosse année. Selon l'architecte Carlo Carbone, professeur à l'école de design de l'UQAM et spécialiste des systèmes de construction industrialisés, le retard généralisé se justifie par le bois. En Amérique du Nord, on a privilégié très tôt la construction à ossature en bois, très légère, très abordable et foncièrement démocratique, idéale pour une main-d'œuvre peu qualifiée. Or, souligne-t-il, ce côté artisanal, longtemps une bénédiction, plombe désormais l'industrie à l'heure où la demande n'a jamais été si forte et où le recrutement de la main-d'œuvre périclite. Vous écoutez « Une autre façon de construire », un texte de Jean-Benoît Nadeau, paru en avril 2024 dans l'Actualité. Charpentier menuisier de métier, Daniel Laprise s'est rapidement insurgé contre le côté archaïque et désorganisé de son métier. Ça m'a frappé un jour que je devais travailler sur une moulure de bois au bout d'une échelle par moins 30 degrés Celsius. Monte, descend, je me suis dit, ça n'a aucune espèce d'allure. En janvier 1989, j'ouvrais mon premier atelier. Globalement, les systèmes industrialisés se divisent en 2 catégories. Les structures de bois, murs, poutrelles, fermes de toit, et les modules préfabriqués, des pièces complètes ou un groupe de pièces. On trouve même quelques hybrides, comme Maison Laprise, qui offre des maisons en kit, des modules complets mais démontés, ou des maisons pliables. La grande différence entre ces 2 modes de construction industrialisée réside dans la proportion du travail réalisé hors chantier, dit Daniel Laprise, également président de l'Association des manufacturiers de bâtiments modulaires du Québec, qui regroupe 15 de fabricants. Les structures de bois représentent environ 15% de l'ensemble d'un chantier, précise-t-il. Mais avec les modules complets, c'est 75% du travail qui est fait à l'intérieur, à l'abri des éléments. On sort les structures comme de la saucisse, dit Richard Letourneau, président de la charpenterie à Saguenay. Chaque jour, ces 110 employés produisent des murs pour 5 maisons et des fermes de toit pour 8 à 10 maisons selon une banque de 250 modèles. Celui qui est aussi président de l'Association manufacturier de structures de bois du Québec, qui réunit 46 usines de la province, explique que la construction s'industrialise petit à petit à mesure que des usines ouvrent et s'agrandissent et qu'elles élaborent de nouveaux produits. De nos jours, 98% des fermes de toit sont faites en usine. Pour les murs, c'est 80% à 85% et plus de 90% pour les multilogements. L'assemblage en usine, notamment le modulaire préfabriqué, permet de court-circuiter des étapes. Dans le cas de multilogement de l'avenue Carmen Bienvenue, il fallait compter 6 semaines pour couler les fondations. En parallèle, l'usine de Bonneville, de l'autre côté de l'autoroute 20, a pris ce temps pour bâtir les 36 modules requis qu'elle accumulait dans sa cour jusqu'au jour J. Et une fois le tout érigé, l'entrepreneur général, chargé de la finition, a pu commencer à travailler sur tous les étages à la fois au lieu d'avancer au fil de l'achèvement des étages, comme c'est le cas dans la construction traditionnelle. Chez Bonneville, d'une vaste mezzanine aménagée dans l'usine attenante au siège social, on peut observer la chorégraphie industrielle qui permet de sortir un module toutes les 2h45 en moyenne. Aux 6 premières stations, un robot scie les planches que les ouvriers assemblent ensuite en murs, en plancher et en ferme, qui forment bientôt une boîte, le module. Les 10 stations d'après suivent une séquence bien établie pour réaliser toutes les tâches possibles. Électricité, plomberie, mécanique, gypse, isolation, fenêtres, revêtement extérieur, calfeutrage, placard, comptoir, caissons de cuisine et de salle de bain, meubles lavabo, céramique et emballage final à la 16e station. Tout est mesuré et minuté, dit Éric Bonneville, qui mentionne que les absences liées à la pandémie ont forcé une réorganisation des équipes, ce qui a permis des gains de productivité de 30 %. Chaque employé fait sa tâche dans des conditions optimales. Au sec, à température contrôlée, avec les outils et le matériel où ils doivent être, personne ne perd son temps. Et il ne neigera pas sur la mousse isolante. À l'instar de Bonneville, les autres entreprises sont en quête constante d'innovation. Maison Laprise est la plus avancée sur le plan de la robotisation avec une machine qui fabrique les pans de mur automatiquement. Elle ajuste, cloue et coupe sans supervision. D'autres machines scient les ouvertures, clouent, font pivoter les structures. Aux industries Bonneville, on s'est équipé d'une scie robotisée qui planifie seule ses coupes pour 6 modules d'avance, de façon à maximiser le bois et à réduire les rejets le plus possible. Les retailles sont envoyées sur la machine qui fabrique les poutrelles, explique Éric Bonneville. À Saint-Apollinaire, près de Québec, Profab examine comment proposer des modules préfabriqués qui seraient livrés, plâtrés et peints. Ce que personne n'a encore osé au Québec. Notre usine ontarienne le fait déjà, dit le PDG Martin Roy, qui a racheté Profab à un fonds d'investissement américain en 2021 avec un groupe d'actionnaires. Ça exigerait une installation beaucoup plus grande, en 22 stations au lieu de 16, mais ça nous permettrait de livrer un produit encore plus fini. La grosse construction, comme on l'appelle dans le jargon, n'est pas en reste, car le marché de l'habitation a également besoin de gros immeubles en tout genre pour loger la population, mais aussi pour l'instruire, la soigner, la nourrir, la distraire. La préfabrication de structures comme les poutres ou les murs rideaux fixés à l'emplacement du bâtiment directement sur la structure sont monnaie courante depuis une génération. Toutefois, les constructeurs de modules complets acier-béton sont encore rares de ce côté-ci de l'Atlantique. Vous écoutez « Une autre façon de construire », un texte de Jean-Benoît Nadeau, paru en avril 2024 dans l'Actualité. C'est ce qu'a constaté Germain Hôtel, qui souhaitait utiliser la préfabrication pour ses hôtels Alt. Pour les 2 derniers établissements de cette marque, à Saint-Jean-de-Terre-Neuve et à Calgary, la famille Germain s'est résolue à faire venir ses modules d'Europe par navire. Par contre, nous avons trouvé au Québec une entreprise, TBC Construction, qui savait faire des modules techniques regroupant la mécanique, plomberie, chauffage, ventilation et l'électricité, raconte Hugo Germain, vice-président aux opérations. C'était tout monté d'avance et ça s'est glissé en place comme une cassette de toute beauté. Ce à quoi Mathieu Singelais, président de TBC Fabrication, nouvelle filiale de TBC Construction, ajoute « C'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Pendant la pandémie, TBC Construction faisait partie d'un consortium qui a pu concevoir et monter une clinique de 36 modules à Montréal en 9 mois et une usine de vaccins à Laval en 8. En optant pour la construction traditionnelle, il aurait fallu compter au moins le double. Grâce à l'expérience acquise, nous avons décidé d'investir dans une usine de 4000 mètres carrés équipée de robots soudeurs et autres automates. C'est un peu une aventure, mais on y croit, et ça intéresse de plus en plus de promoteurs. Chez Pomerleau, le plus important entrepreneur en construction au Québec, qui faisait partie du consortium, le vice-président principal François Tremblay prévoit que les premiers modules réalisables dans la construction en dur pour les multilogements toucheront la salle de bain ou les modules combinés salle de bain-cuisine. Une salle de bain requiert une séquence presque invraisemblable de travaux dans un espace minuscule. Charpente, plomberie, électricité, gypse, joints, céramique, ébénisterie, peinture. Et chaque ouvrier de chacun des métiers doit repasser plusieurs fois. La préfabrication présente une solution évidente. Chez les promoteurs immobiliers, qui exploitent les terrains et conçoivent les projets, on observe une réelle volonté d'accélérer le travail. J'avais toujours trouvé la construction inefficace et gaspilleuse, et je ne comprenais pas pourquoi je devrais construire des maisons comme mon grand-père, raconte Jérémy Fournel, PDG du groupe Fournel, entreprise de Bécancour, qui fait de la promotion immobilière, mais aussi de la construction depuis plus de 50 ans, et qui a décidé, en 2019, de procéder autrement. Après quelques années d'expérimentation dans des installations de 400 mètres carrés, le groupe Fournel s'apprête à ouvrir une usine 5 fois plus grande, où 2 chaînes de montage parallèles fabriqueront les cloisons et les planchers des maisons qui seront ensuite transportés par camion et assemblés sur place. La petite entreprise de 17 employés a déjà doublé sa production à 100 unités d'habitation par an et compte passer à 300 dans un avenir rapproché. On sait comment assembler un 4 logements en 2 jours, mais on veut maintenant que tout soit à l'abri de l'eau en 48 heures. La prochaine étape consistera à installer les fenêtres et le gypse en usine. Après, ce sera le revêtement et le calfeutrage. D'autres stratégies sont mises en œuvre pour assurer davantage de collaboration entre promoteurs et entrepreneurs généraux et industriels. L'un des objectifs du chantier sur l'avenue Carmen Bienvenue, explique Éric Bonneville, est de familiariser les entrepreneurs généraux avec la construction modulaire. Nous avons effectué 80% du boulot en usine. Le but est de leur montrer ce qui reste à faire pour leur permettre de préparer des soumissions réalistes. 2 semaines après l'érection des 36 modules, le chantier est loin d'être terminé. Certes, les comptoirs, les meubles lavabos, les caissons de cuisine, les portes de garde-robe, les carreaux, les luminaires, les thermostats sont en place, mais il manque toute la finition. Revêtement de plancher, plâtre, peinture, balcon et briques. Plus tous les branchements d'électricité, de plomberie et de ventilation. Depuis les années 1980, les constructeurs de modules préfabriqués ont beaucoup travaillé pour faire mentir leur réputation de bas de gamme. Celle-ci remonte à l'après-guerre, à l'époque où cette industrie naissante s'était orientée vers les maisons mobiles qui tenaient plus de la roulotte de chantier que de la maison. Et il y a 30 ans, la plupart se bornait toujours à 3 ou 4 modèles de maisons individuelles. Cette réputation hante encore l'industrie, même si elle répond désormais à de très hautes normes, supérieures à celles du Code du bâtiment, et qu'elle propose une grande variété de modèles, dit Carlo Carbone, de l'École de design de l'UQAM. La Société d'habitation du Québec, en partenariat avec l'Université Laval et plusieurs fabricants, mène depuis quelques années une initiative appelée « Go Kit ». Ce nouveau concept, très rigide, construction modulaire en bois et structure métallique, permettra d'empiler les modules sur plus de 6 étages, ce que le Code du bâtiment n'autorise pas pour les structures uniquement en bois. Les boîtes seront raccordées par un système de jointage en instance de brevet d'une précision de 3 mm. Le prototype, testé au printemps 2023, a permis d'établir sa solidité à toute épreuve. Pendant l'essai, une erreur de manutention a provoqué la chute d'un des modules, raconte Claude Foster de la SHQ. À la surprise de tout le monde, il n'y avait aucun bris ni aucune déformation. Les structures se sont emboîtées l'une dans l'autre comme prévu. La construction industrialisée a d'autres avantages à faire valoir. Parce que la production est rationalisée, elle engendre beaucoup moins de rebuts, soit à peine 10% des déchets de la construction sur place. C'est donc 10 fois moins de conteneurs, d'ordures, de manutention, de va-et-vient. Les usines économisent également en achetant leurs matériaux directement des fabricants par camion entier et en gérant leur propre stock, alors que les petits entrepreneurs généraux doivent se les procurer chez les détaillants. Par ailleurs, les usines n'éprouvent pas les mêmes pénuries de main-d'œuvre que les chantiers, qui doivent se plier aux aléas de la nature et aux règles beaucoup plus contraignantes de la Commission de la construction du Québec, CCQ. En usine, les fameuses cartes de compétences des 26 métiers de la construction ne sont pas requises. Ce qui revient moins cher, même quand les ouvriers de l'usine sont syndiqués, ce qui est souvent le cas. Quand les modules ou les structures arrivent au chantier, le travail qui reste à faire est soumis aux diverses règles des décrets de la construction et ce sont des ouvriers qualifiés qu'ils terminent aux conditions de la CCQ. Vous écoutez « Une autre façon de construire », un texte de Jean-Benoît Nadeau paru en avril 2024 dans « L'actualité ». À la CCQ comme à la FTQ Construction, le syndicat, qui réunit environ 40% des ouvriers de la construction sur chantier, on explique que la construction modulaire ou préassemblée n'est pas perçue comme une menace, surtout dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre. Mais ça va supposer un certain remaniement dans les façons de faire, dit Marie-Noël Deblois, de la Direction des affaires publiques et des communications de la CCQ. Tout le monde devra s'adapter. Les systèmes industrialisés, c'est un apprentissage, convient Hugo Germain de Germain Hôtel. En théorie, c'est du Lego, mais en pratique, ça demande une excellente planification. Il n'y a pas d'à peu près possible. La dalle de béton doit être précise au millimètre. Il faut que le design soit parfait. Mais une fois qu'on sait comment faire, c'est certain que c'est mieux. En 2020, Structure Ultratech à Laurier Station a fait les manchettes en participant au défi 100 jours. Il s'agissait de rebâtir en moins de 100 jours le Magella, un immeuble de 70 logements à Val-Bélair, en banlieue de Québec, qu'un incendie avait ravagé en cours de chantier. La part de Structure Ultratech consistait à fournir toutes les structures de bois. Il n'y a pas eu de miracle, insiste Samuel Beaudoin, ingénieur et directeur de l'estimation. On a réussi parce qu'on a pu reproduire exactement le plan d'origine. La planification, c'est le secret d'une construction modulaire efficace. Ça ne s'improvise pas. Qui dit plan, dit architecte et ingénieur. Or, selon l'architecte Carlo Carbone, les écoles de génie et d'architecture tardent à se mettre à la construction modulaire. Ça ne fait pas partie des programmes. Certains professeurs donnent des cours par intérêt personnel. Une mauvaise maîtrise des systèmes industrialisés par les architectes entraîne toutes sortes d'erreurs, parfois élémentaires. Comme des plans d'habitation larges de 35 pieds, soit deux modules de 17,5 pieds, alors que le maximum autorisé sur les routes est une largeur de 16 pieds. Raconte Charles-Alexandre Rioux, directeur de la stratégie et du développement des affaires du groupe Rioux, un promoteur immobilier de Matane et directeur des opérations de sa division Habitation Mont-Carleton à Carleton-sur-Mer, qui se consacre au modulaire. Une construction modulaire doit être pensée comme telle au départ. Aux yeux de Carlo Carbone, les architectes ont longtemps résisté aux modulaires préfabriqués parce qu'ils nieraient leur créativité et la plupart résistent encore. Or, le potentiel créatif est très grand, quoique différemment. De toute manière, en construction, on doit déjà composer avec les contraintes réglementaires et physiques. L'un des buts de l'initiative GoKit de la Société d'habitation du Québec, avec ses modules hybrides de bois-acier, est justement d'imiter l'industrie automobile pour créer une grande variété de modèles, tous bâtis sur le même châssis. L'idée est de constituer un stock de composants standardisés permettant la flexibilité conceptuelle et la production en gros volume, explique Nathalie Doyon, architecte à la SHQ. Après 9 ans chez Pomerleau, l'architecte Ivanka Lordanova est désormais professeure à l'École de technologie supérieure où elle a élaboré le premier cours de construction hors chantier et de fabrication numérique. Il y a tellement de matière qu'on va sans doute devoir faire 2 cours, dit-elle. Ivanka Lordanova compte parmi les grands spécialistes québécois de ce qu'on appelle le BIM, pour Building Information Modeling, modélisation des données du bâtiment. Le BIM se résume à une maquette numérique en 3D, mais qui est en fait une base de données commune et un espace virtuel de collaboration entre promoteurs, architectes, entrepreneurs et industriels. Il permet 2 choses. L'automatisation de la fabrication et une meilleure coordination entre les équipes. Car une des plaies de la construction traditionnelle est le travail en silo, où chaque intervenant bosse dans son coin sur des plans qui, trop souvent, ne concordent pas exactement avec ceux des autres, mesures non conformes, mauvais détails d'assemblage, etc. Le BIM oblige tout le monde à coopérer. Et si une donnée en contredit une autre, l'erreur sera soulignée par les outils de vérification automatique du logiciel ou par les collaborateurs qui travaillent tous sur les mêmes données, explique Ivanka Lordanova. Plus personne ne va se demander où passent les conduits de climatisation, soutient Richard Letourneau de l'Association manufacturier de structures de bois du Québec. Si c'est sur BIM, l'info est correcte pour tout le monde. Ça va révolutionner toute l'industrie. À la SHQ, on y croit tellement qu'on a lancé une feuille de route BIM à laquelle participent tous les grands donneurs d'ouvrages publics comme Hydro-Québec, la Société québécoise des infrastructures, les villes de Montréal et de Québec et bientôt celle de Longueuil et de Laval. Son intégration est critique parce que l'industrialisation de la construction se décidera non seulement en usine et sur les chantiers, mais aussi au sein des autorités municipales et gouvernementales qui commandent les travaux et subventionnent le logement social, de même que les écoles, les CHSLD, les CPE. L'industrialisation ne servira à rien si les processus d'appel d'offres, les contrats et la délivrance de permis ne sont pas pensés en conséquence. Si on veut améliorer la productivité de la construction, toutes les étapes doivent être productives. Ça ne se limite pas au chantier, dit Kevin Hughes de la SCHL. L'économiste Cite en exemple la ville de Kelowna, en Colombie-Britannique, où un agent conversationnel accélère désormais la délivrance de permis. Les promoteurs, entre eux-mêmes, les données. Si ça cadre, c'est oui, tout de suite. Sinon, ils doivent rencontrer les fonctionnaires pour expliquer leur demande. Au cabinet de la ministre québécoise de l'Habitation, France-Hélène Duronceau, responsable de la SHQ, on fait valoir que plusieurs articles du projet de loi 31 visent à accélérer la délivrance de permis. Sous certaines conditions, les municipalités pourront déroger de leur règlement d'urbanisme pour autoriser la construction de multilogements de tout type, sociaux, abordables ou étudiants. Les municipalités de plus de 10 000 habitants, ou dont le taux d'inoccupation est de moins de 3 % pourront également s'en prévaloir pour bâtir des multilogements ordinaires. Il est important pour nous de continuer à travailler en collaboration avec tous les partenaires en habitation afin d'aider le plus de Québécois possible à se loger adéquatement et selon leurs moyens, dit Justine Vézina, attachée de presse de la ministre. Vous écoutez « Une autre façon de construire », un texte de Jean-Benoît Nadeau, paru en avril 2024 dans l'actualité. La nécessité d'industrialiser la construction suppose aussi que les pouvoirs publics, contre leur réflexe de morcellement des contrats entre différents intervenants. Chez Pomerleau, explique François Tremblay, nous pourrions investir dans une usine de modules salle de bain cuisine à condition qu'on nous garantisse 1000 unités à construire dans 10 villes. Et une fois lancé, nous serions en mesure de livrer des modules à d'autres entreprises, mais pour justifier l'investissement, il faut du volume. Le chiffre de 1000 unités d'habitation ne sort pas de nulle part. Il faut 1000 unités pour rentabiliser un investissement en robotisation de la construction, dit Ivanka Lordanova, qui a étudié cette question en long et en large, notamment en tenant compte des types de robots exigés. Mais ça demande une volonté d'attribuer des contrats qui permettent de véritables économies d'échelle. Ce dont convient Claude Foster à la SHQ. Notre idée est de commencer par des commandes de 500 unités, puis de passer à 1000 et ensuite à 1500 si ça fonctionne. Encore faudra-t-il que le Conseil du Trésor modifie ses règles contractuelles qui visent à prévenir la collusion, mais qui ont pour effet de nuire à la coopération. Selon Patrick Valeran, président de Stratégia Conseil, un cabinet spécialisé en gestion de projets, l'État ne pourra pas industrialiser la construction à l'échelle requise pour régler la crise du logement s'il persiste avec le mode d'attribution des contrats au plus bas soumissionnaire, le moins cher. Créer une filière de construction industrialisée suppose que les industriels soient impliqués dès la conception des plans, avant l'appel d'offres proprement dit. La SHQ l'encourage, mais c'est encore au stade du projet pilote et ça demande obligatoirement une dérogation du Conseil du Trésor. Grâce aux Européens et aux Japonais, notamment, la voie à suivre vers l'industrialisation de la construction est tracée, mais il reste à l'industrie québécoise bien du chemin à parcourir pour produire 1,2 million de logements de tout type d'ici 2030. Et comme le reconnaissent l'ensemble des industriels interviewés, aucune usine n'a encore l'envergure nécessaire. Pour l'instant, il ne s'agit que d'ateliers. On y assemble les modules et les structures selon des processus certes standardisés, mais encore à la main, avec très peu d'automatisation. Il faut arriver à mettre en place des processus qui permettent la répétition. Si on ne répète rien, on est juste un atelier, explique Daniel Laprise, qui s'apprête à investir des millions dans une nouvelle usine robotisée à Montmagny. Il faut penser comme un manufacturier plutôt que comme un constructeur. C'était « Une autre façon de construire », un texte de Jean-Benoît Nadeau, paru en avril 2024 dans l'actualité.
La diversité dans la diversité, un texte de Mélissa Lévy, paru dans le numéro 159 hiver-printemps 2023 du magazine Paraquad. C'était un bel après-midi d'été du mois de juillet. Il faisait beau et chaud. La chaleur caressait la peau et le rire des enfants résonnait autour de la piscine. Le plaisir était au rendez-vous et l'ambiance à la fête. Monsieur Brané s'amusait avec ses neveux et nièces et, pour les faire rire, il a décidé de sortir de la piscine et de se rendre au tremplin pour effectuer un plongeon mémorable. Mémorable, il le fut en effet, car il a complètement changé sa vie. C'est ainsi que Monsieur Stéphane Brané, directeur général de l'Association québécoise pour l'équité et l'inclusion au poste secondaire, AQEIPS, a vu sa vie prendre une trajectoire insoupçonnée lorsqu'il est devenu tétraplégique à la suite de cet accident de plongeon survenu il y a 28 ans. Pour ce numéro du Paraquad, ayant comme thème l'état des lieux concernant la situation des personnes en situation de handicap au Québec en 2023, nous avons effectué une entrevue avec M. Brané et discuté de son parcours en emploi, des constantes et des changements qu'il a pu y observer, ainsi que de ses aspirations pour le futur. Nous avons abordé ensemble, dans une conversation riche, chaleureuse et ponctuée d'humour, la perception des personnes en situation de handicap véhiculée dans les lieux communs, l'importance de la sensibilisation et les compétences réelles des personnes en situation de handicap. Bonjour, Monsieur Brané. Merci beaucoup de prendre le temps de répondre à mes questions. Pouvez-vous brièvement me résumer votre parcours? Mon accident est arrivé le 22 juillet 1994. J'ai été camionneur la majorité de ma vie avant l'accident, sauf les deux dernières années précédentes. Mon employeur m'avait demandé de prendre des postes de gestion. J'ai été contremaître de cour, directeur de succursale dans les centres de rénovation et directeur adjoint pendant un très court temps. Comme j'étais directeur de succursale avant mon accident, quand ça a été le temps de retourner en emploi, j'ai tout de suite pensé à un poste de gestion. Quand l'accident est arrivé, j'en étais à mon deuxième mariage. J'avais une petite fille de 3 ans et demi. On a appris, 3 jours après mon accident, que ma femme était enceinte. C'était prévu. J'avais un petit gars qui s'en venait. Ça a motivé le papa à bouger afin de poursuivre sa vie. Après l'accident, j'ai fait 5 arrêts cardiaques en 6 jours. J'étais plus mort que vivant. Je me suis battue pour rester en vie. Ils disent que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ça m'a renforcée en maudit. Je suis restée branchée sur un respirateur pendant 3 mois. J'étais conscient. J'ai profité de ces 3 mois pour faire une grande introspection, pour réaliser que j'étais passée à côté de la vie, que je ne m'aimais pas et que je ne profitais pas de la vie. J'ai appris à m'aimer et à réaliser ce qui était important pour moi, comme ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, et à me dépasser. La vie m'a appris à comprendre ça de cette façon. Je dis souvent que mon accident m'a sauvé la vie, en fin de compte. Je suis en paix. Pour moi, ma chaise, c'est une extension de moi-même. Quand je suis arrivée en réadaptation, il y avait 3 choses que je voulais apprendre. Écrire avec ma bouche, travailler avec l'ordinateur calculatrice et travailler avec le téléphone cellulaire. J'ai appris ça et, plutôt que d'avoir une réadaptation de 12 à 18 mois, 3 mois plus tard, j'étais prêt à sortir parce que je voulais arriver avant le bébé à la maison. Après ça, j'étais prêt à retourner au travail, mais mon employeur m'a fait évaluer par un ergothérapeute et ils m'ont déclaré inapte au travail. Ils m'ont dit « Va sur l'invalidité ». J'avais 27 ans. Déjà à cette époque, au niveau du marché du travail, il y avait une problématique pour les personnes en situation de handicap. Que voulez-vous dire? Si on retourne à il y a 28 ans, j'aurais pu poursuivre mon travail par moi-même et réintégrer le marché du travail. Quand j'ai voulu réintégrer le marché du travail, j'ai fait des démarches par moi-même et puis ça n'a rien donné. Comme il n'y avait rien qui s'offrait à moi, j'ai rencontré une conseillère de l'Association des paraplégiques du Québec, à l'époque de mode d'emploi. La seule chose qu'elle pouvait m'offrir, c'était du télémarketing. J'ai un méga respect pour ceux qui font ça. Mais je ne me voyais pas faire ça pour les 30 prochaines années. J'ai passé un test de profil psychométrique. Ce qui ressortait, c'était le côté gestion, entraide, soutien communautaire. La conseillère m'a dit, idéalement, qu'il faudrait que je retourne aux études. Moi, j'avais une formation de soudeur général, parce que la condition pour que je termine l'école quand j'étais jeune, c'était que j'ai un diplôme pour aller conduire des camions. J'ai choisi le plus court, soit la formation professionnelle à l'époque. Avec la conseillère de mode emploi, j'ai regardé 3 institutions d'enseignement pour mon éventuel retour aux études. L'Université du Québec à Montréal, UQAM, l'École des hautes études commerciales de Montréal, HEC, et l'Université TELUC. J'ai choisi TELUC parce que c'est l'endroit où j'ai été le mieux reçu. L'UQAM n'avait pas vraiment de service et les HEC n'étaient carrément pas intéressés à avoir un quad. C'était comme clair. C'était comme un refus. Ben, ce n'était pas dit comme ça. Pour eux, il n'y avait pas de soutien. Tandis qu'à la TELUC, j'ai été accompagnée, autant pour le côté académique que pour le côté financier. Il y avait une personne qui me suivait pour l'aide financière aux études et une autre personne pour les accommodements à la maison. J'ai embarqué avec eux pour un certificat en administration et, de fil en aiguille, j'ai fait un baccalauréat en administration des affaires entre 2000 et 2005. Après mon baccalauréat, je me disais « Bingo, j'ai un baccalauréat, tout le monde va vouloir m'engager ». Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Je faisais des demandes d'emploi un peu partout. Aussitôt qu'on me rappelait pour une entrevue, que je parlais du fauteuil et de l'accompagnateur, c'était difficile. Ce n'était pas dit clairement. Mais tout d'un coup, ça devenait moins intéressant. On me disait des choses comme « Ah, finalement, on a quelques marches à monter. » C'était ficelé de façon à ce qu'il ne soit pas discriminatoire, mais c'était clair qu'il ne voulait pas voir de personnes en situation de handicap malgré le fait que je leur disais qu'il y avait possibilité d'avoir une subvention salariale et des fonds pour faire adapter un bureau. Vous écoutez « La diversité dans la diversité », un texte de Mélissa Lévy paru dans le numéro 159, hiver-printemps 2023, du magazine Paraquad. Je me suis aussi essayée au gouvernement. C'est en 2003 que j'ai commencé à y postuler, mais mes démarches n'ont pas abouti. J'ai donc oublié ça. Dans mes dernières années d'études, j'ai commencé à avoir quelques contrats qui entraient. J'ai utilisé les contacts de mon réseau pour me faire une clientèle et c'est de cette façon que j'ai construit ma pratique privée en management. Je me suis dit que si personne ne voulait m'embaucher, j'allais créer mon emploi et m'embaucher moi-même. Je n'étais pas assez fou pour me mettre moi-même dehors. J'ai créé mon cabinet conseil en administration et je suis devenu consultant en management. De fil en aiguille, à partir de 2006, j'ai eu pendant 4 ans des contrats avec le Centre local de développement de ma région, Argenteuil. À un moment donné, il y a eu une ouverture de poste de direction au même centre de développement local pour lequel j'ai travaillé. J'ai postulé, mais ils ne m'ont pas retenu, bien que ça fasse 4 ans que j'étais là et que tout le monde était satisfait de mon travail. Il y a un proverbe qui dit qu'on n'est jamais maître dans son coin. Dans mon coin, c'était impossible de me placer. J'ai essayé de postuler à d'autres emplois tout en continuant à travailler à contrat. Même comme travailleur autonome, même quand une personne venait me rencontrer au bureau, elle sortait avec une soumission et elle ne me rappelait jamais. Pour ces personnes, mon handicap était égal à un manque de compétence. Je n'avais pas la compétence du monsieur qui arrive avec sa valise, son veston et sa cravate. J'ai aussi fait de la politique municipale de 2005 à 2013. Ça aussi, ça a été un autre dossier. Même pour aller en politique municipale, quand le maire m'a approché en 2005, ceux qui étaient en arrière de son équipe lui ont dit « Il passera jamais parce qu'il est en fauteuil. Personne ne va élire un conseiller handicapé. » J'ai été élue avec une majorité qui n'avait jamais été vue ici, à la chute. Ça démontre qu'il y avait une plus grande ouverture dans la population qu'au sein même du parti dans lequel je me présentais. Personne ne croyait que je pouvais entrer là. J'en ai fait pendant 8 ans, et après j'en avais assez. Je ne suis pas fait pour être un politicien. Je suis fait pour agir. En politique, il y a environ 1 an et demi qui s'écoule entre le moment où on prend une décision et le moment où on la met en action. En 2016, j'ai pris une décision d'affaires. Comme je n'avais pas de contrat, la somme de ce que je recevais en rente d'invalidité allait dans l'entreprise. Heureusement que je vis avec ma mère. Comme j'en étais venu à payer mon travail, j'ai fermé mon cabinet conseil. Je me suis dit que là, je ne pouvais pas rester à ne rien faire. Qu'est-ce que vous avez fait après? En 2018, j'ai commencé des démarches pour aller étudier au 2e cycle. Quand j'ai commencé mon baccalauréat, j'avais l'intention de me rendre jusqu'à la maîtrise. Mais comme j'avais de petits contrats, j'ai tassé ça. Quand l'occasion s'est présentée en 2018, j'ai recommencé les démarches et en 2019, j'ai recommencé mes études. C'est ce qui m'a amené en 2022 à chercher du soutien financier, car ça coûte cher, des études de 2e cycle. C'est là que j'ai eu la possibilité d'occuper un poste avec un horaire de 18 heures par semaine à l'AQEIPS. Ce qui faisait mon affaire. Entre ça, pendant tout ce temps, j'ai continué à envoyer des demandes d'emploi un peu partout. La seule offre d'emploi sérieuse que j'ai eue, c'était à Chibougamau pour aller diriger le service de développement économique pour les sociétés autochtones là-bas. Ça aurait été un super beau défi. J'ai expliqué aux chasseurs de têtes qui m'avaient contacté que ça aurait été très difficile pour moi, avec mon fauteuil, de me déplacer à cet endroit. Son offre était super alléchante. Le salaire faisait mon affaire. Toutes les conditions étaient réunies. Par contre, avec ma réalité, ça aurait été impossible. C'était illogique. Ça démontre à quel point ils étaient prêts à m'embaucher et à trouver les accommodements nécessaires pour m'aider. Qu'est-ce qui fait que les gens croient que vous n'avez pas de compétences? Est-ce que c'est juste le fauteuil, vous croyez? C'est le fauteuil, c'est le handicap. On n'est pas pris au sérieux, c'est malheureux. J'ai partagé un texte sur LinkedIn. J'ai partagé une publication du gouvernement qui se plaignait de la pénurie de main-d'œuvre. Tu sais, on est un bassin intéressant à considérer de personnes en situation de handicap divers qui pourraient prendre des places et qui seraient très heureuses de les prendre. J'ai postulé dans des postes au gouvernement jusqu'à récemment. Les processus ne se termine jamais. Tu passes des entrevues, tu passes à l'action, tu remplis des papiers, tu n'as jamais de nouvelles. Est-ce que vous pensez que les employeurs ont la même perception de toutes les personnes en situation de handicap, qu'ils mettent toutes les personnes en situation de handicap dans le même panier, dans leur façon de voir les choses? Oui. Effectivement, c'est un bon point. Pour eux, les employeurs, j'ai l'impression qu'ils associent tous les handicaps à un handicap neurologique, psychologique. Comme à une déficience intellectuelle, par exemple. Comme une déficience intellectuelle, effectivement. Je vais te donner un exemple. Avant mon accident, il y avait un restaurant où j'allais manger 3 fois par semaine avec ma femme. Après mon accident, j'y suis retournée avec mon accompagnateur préposé environ 8 mois plus tard. La serveuse, que je connaissais, a demandé à mon accompagnateur en me regardant « Qu'est-ce qu'il va manger ?» Je la connaissais pourtant. Je lui ai répondu qu'il allait manger ce qu'il avait envie de manger, qu'il va choisir tout seul. « Voyons !» Elle m'a regardé et m'a dit « Excuse-moi, Stéphane, je me sens tellement mal !» Elle avait associé ma chaise au fait que j'avais une déficience au niveau cognitif. J'ai dédramatisé la situation par la suite. Après, on en riait. Ça démontre quand même comment on est perçu dans la société en général. Imagine pour un employeur. Il y a beaucoup de travail de sensibilisation à faire. Selon vous, comment pourrait-on sensibiliser les employeurs au fait que les personnes en situation de handicap ont des compétences? Ce sont des histoires à succès qui devraient être médiatisées pour que les employeurs comprennent qu'on a aussi des compétences. Les personnes en situation de handicap sont aussi performantes, sinon plus parfois, que les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Il faudrait que les employeurs comprennent qu'on a les compétences qu'ils recherchent. Je crois que la seule façon qu'on va réussir à casser ce moule va être en montrant des histoires à succès. L'idée du success story, c'est efficace. Il faudrait montrer que même pour nous autres, on est capable d'occuper des emplois autres que dans des entreprises adaptées ou des postes de défense de droits de personnes en situation de handicap. Vous écoutez « La diversité dans la diversité », un texte de Mélissa Lévy, paru dans le numéro 159, hiver-printemps 2023, du magazine Paraquad. Je pourrais très bien fonctionner dans un cabinet conseil en développement économique ou dans une société de développement économique comme Investissement Québec ou Développement économique Canada, pour ne nommer que ceux-là. Il faudrait démontrer la capacité qu'on a d'évoluer dans un système au même titre que n'importe qui. Tu sais, mon travail de direction à l'association, je le fais comme n'importe quel autre directeur général. Pour ceux qui n'ont pas d'agent payeur, comme moi, c'est la rente d'invalidité qui assure notre sécurité financière si on ne peut pas intégrer d'emploi avec des conditions intéressantes. Il faut qu'on y pense en maudit avant de prendre un emploi. Si ça ne fonctionne pas, un coup que tu as perdu ta rente d'invalidité, c'est vraiment difficile et compliqué de la récupérer. Tu deviens vulnérable sur le plan financier. Seriez-vous d'accord pour dire que ce genre de capsule, ces histoires à succès, on les voit plus souvent pour des gens ayant un trouble autistique ou une déficience intellectuelle qui ont intégré un emploi en entrepôt, par exemple? On ne voit que très rarement des cas de personnes en situation de handicap occupant des postes professionnels. Ben oui, on ne le voit jamais. Le seul exemple que je connais, c'est celui de la personne devenue tétraplégique qui a fondé le Club de voile adapté au Québec, CVAQ, et qui a occupé un poste professionnel. Il a été très actif et s'est impliqué. On n'a jamais célébré son histoire ou vanté ses mérites dans les médias. Je ne l'ai jamais vu passer à la télé. C'est ça qui est malheureux. Je trouve que son parcours est inspirant. Je m'y suis reconnue. Il manque de modèles. Faire connaître ses modèles au grand public serait une bonne avenue. C'est comme si on ne prenait pas en compte la diversité au sein de la diversité des individus au sein du groupe marginalisé des personnes handicapées. Qu'en dites-vous? Oui, exact. Tu l'exprimes bien. C'est là que je voulais en venir. Pourquoi la vision de la personne en situation de handicap en emploi n'est-elle pas multiple? Pourquoi est-ce qu'il faut nous confiner dans le milieu des personnes handicapées? Je trouve qu'on nous aide peu à mettre à profit nos compétences et à exploiter notre plein potentiel. Ce que je fais à l'AQEIPS, je pourrais le faire dans d'autres milieux publics ou privés. Je suis une personne qui carbure au défi. J'ai besoin de me sentir utile. Je n'occuperai pas un emploi dans lequel je ne verrai pas mon utilité. J'ai besoin de m'amuser un peu dans mon emploi. J'ai eu la chance d'intégrer l'AQEIPS. J'ai été embauchée parce que le directeur cherchait une avenue pour sortir et qu'il ne voulait pas laisser le conseil d'administration sans avoir quelqu'un pour le remplacer. J'ai fait une formation universitaire et je suis en train de restructurer l'AQEIPS, de l'amener à un virage à 180 degrés. J'en suis capable. J'ai même fait partie de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec pendant 10 ans. J'ai eu des éloges pendant mon audit. Dans les dossiers sur lesquels j'ai travaillé, j'ai performé. J'ai eu du succès. Les employeurs devraient être sensibilisés au CIT, à la possibilité d'avoir une subvention salariale ou un ergothérapeute qui vient évaluer l'ergonomie du poste de travail. On n'entend jamais parler du CIT. J'ai entendu parler du CIT lorsque je suis entrée à l'AQEIPS. J'ai eu mon accident en 1994 et on était rendu en 2022. Je trouve que les choses n'ont pas beaucoup changé depuis tout ce temps. Pourquoi on ne parle pas du CIT dans les médias? Pour que les choses changent, qu'est-ce que vous souhaitez? Je souhaite qu'on mise sur la promotion des compétences des personnes en situation de handicap dans des salons de l'emploi, par exemple. Un peu partout où les employeurs peuvent être rejoints, que les compétences des personnes en situation de handicap puissent être mises à profit, quelles qu'elles soient. On pourrait appeler dans les ordres professionnels. L'employabilité des personnes en situation de handicap pourrait être un sujet de recherche bien intéressant pour évaluer les mesures d'inclusion du gouvernement. À notre niveau, c'est tout ce qu'on peut faire. On peut patauger dans le communautaire, faire évoluer la réflexion, en parler. Chaque petit pas qu'on fait est important. Si on peut faire avancer les choses, tant mieux. Je ne demande que ça. J'aimerais que les choses changent pour la jeune génération de personnes en situation de handicap qui me succédera, pour qu'elles ne vivent pas les mêmes obstacles que j'ai vécus. Je vous remercie infiniment pour votre partage qui fera sûrement réfléchir les lecteurs. Votre témoignage fait ressortir des enjeux qui me sont aussi souvent partagés dans mon bureau. C'est important d'en parler pour que l'on reconnaisse la diversité au sein de la diversité. C'était « La diversité dans la diversité », un texte de Mélissa Lévy paru dans le numéro 159, hiver-printemps 2023 du magazine Paraquad.